De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comme une urgence ce matin, trouver des parrainages pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ne les ont toujours pas à 10 jours de l'échéance. Jean Castex s'en préoccupe, mais sans doute un peu tard. Et quelle étrange campagne, décidément. Oh oui. On en reparle avec vos invités tout à l'heure.
Trois invités au micro d'Inter à 8h20. Pierre-Henri Tavoyot, Brice Teinturier, Raphaël Yorca. Vous pourrez dialoguer avec eux sur cette étrange campagne, donc 01 45 24 7000.
Des colonnes de blindés, voilà à quoi ressemble une invasion militaire en général, mais impossible de dire si elle a commencé en Ukraine. Nous serons à Moscou dans un instant et sur la ligne de front dans le Donbass. Dans ce journal aussi, l'interminable procès des attaques du 13 novembre 2015, encore rallongé par le Covid, énorme lassitude au palais de justice. Du sel bio, quelle que soit sa provenance, des élus dénoncent un projet ubuesque de l'Union Européenne. Et puis Maigret, par Gérard Depardieu, devant la caméra de Patrice Lecomte. C'est du cinéma et c'est vraiment très réussi, nous dira Corinne Pellissier.
France Inter.
Un président qui n'est toujours pas candidat, mais il a largement ses 500 parrainages, pendant que d'officiels candidats qui font campagne depuis des mois ne les ont toujours pas. Voilà l'une des particularités de cette course à la présidentielle 2022. Marine Le Pen annule ses déplacements, il lui reste 10 jours pour trouver plus de 100 signatures d'élus. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas non plus leur quota. À eux trois, ils pèsent 40% de l'électorat selon les sondages. Il en va donc de la démocratie, s'inquiète Jean Castex. Il invite demain les associations d'élus pour les inciter à parrainer, mais le gouvernement aurait pu s'en préoccuper plus tôt, Maxence Lambrec.
Depuis 2017, on les alerte, on leur écrit, s'agace-t-on à l'Association des maires de France. Lors de notre dernier congrès en novembre, on a bien senti que ça n'allait pas fonctionner. Les maires ont trop peur des représailles politiques mais aussi physiques. Le climat est si tendu que seulement un quart des élus, 9600 pour être précis, ont osé prendre la plume pour l'instant, 5000 de moins qu'il y a 5 ans. L'AMF a en effet proposé depuis longtemps le retour de l'anonymat ou le parrainage possible des adjoints. Mais les règles ne changeront pas d'ici à la semaine prochaine, Matignon l'admet, et cette réunion demain ne permettra d'envoyer qu'un signal politique, une sorte d'appel solennel.
Le parrainage n'est pas un soutien.
Comme vient encore de le faire hier soir Éric Zemmour.
Sauvons notre démocratie. Parrainez-moi.
Si Jean Castex s'empare au dernier moment de ce sujet, c'est qu'à l'Élysée, on s'en est inquiété lors d'une réunion avant-hier. C'est la légitimité de l'élection présidentielle qui est en jeu, dit un conseiller de l'exécutif. On ne pourra pas justifier la présence de Jean Lassalle et l'absence de Marine Le Pen. Si Jean-Luc Mélenchon se montre maintenant serein...
Je suis confiant parce qu'on travaille bien, parce qu'on fait les choses dans l'ordre.
Village par village, la candidate du RN et le patron de Reconquête disent encore chercher une cinquantaine de signatures.
Et auront-ils celle de Philippe Arduin, maire LR de Simiane-Collongue, 6000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Il préférait quand les parrainages étaient anonymes. Alors cette fois, avant de se prononcer, il a décidé de consulter ses administrés, leur demander pour qui leur maire doit-il signer.
C'est pas tout à fait un vote, hein. Je vais recueillir l'avis de mes administrés, donc je vais mettre une urne en mairie, ça va durer une semaine, et fort du dépouillement, je prendrai mes responsabilités, je désignerai un candidat. Mon candidat, c'est Madame Valérie Pécresse, et elle a ses 500 signatures depuis quelques temps. Ce qui m'inquiète, c'est la démocratie. Quand vous avez des candidats qui font plus de 10%, donc qui représentent des millions d'électeurs, le raccourci peut être facilement franchi par ces militants. On nous a volé la victoire ou on nous a volé nos élections. Et là, je pense qu'on peut avoir des mouvements dans les rues qui seraient assez excessifs.
Philippe Arduin, maire LR d'une commune des Bouches-du-Rhône, au micro de Laurent Sénéchal. Quant aux élus de l'Assemblée, ils vont définitivement adopter l'allongement de la durée légale pour avorter aujourd'hui de 12 à 14 semaines de grossesse. Le texte présenté par l'opposition a été soutenu par la majorité, malgré les réticences d'Emmanuel Macron.
Il est 8h05, les soldats russes, Florence, ont-ils passé la frontière ukrainienne?
Question ce matin, alors que la Douma à Moscou a donné hier son feu vert au déploiement militaire dans le Donbass, région séparatiste dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance. Pour Joe Biden à Washington, c'est bien le début d'une invasion de l'Ukraine, mais que se passe-t-il vraiment sur place? Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. Alors Sylvain, l'invasion a-t-elle commencé ?
Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de présence confirmée de l'armée russe dans le Donbass, hein, ni du côté de Moscou, ni du côté de l'OTAN, ni via d'autres sources indépendantes. On a quelques témoignages indirects, assez flous, mais rien de clair. Ce que l'on voit ces dernières heures, ce sont des convois d'engins blindés, de camions qui roulent côté russe en direction de la frontière. On a vu également sur des images satellites des hôpitaux de campagne se mettre en place côté russe. Pour les spécialistes, c'est un signe clair de l'imminence d'un conflit. Mais dans le même temps, la Russie continue à cultiver l'ambiguïté. Hier soir, Vladimir Poutine a obtenu du Sénat russe l'autorisation d'engager l'armée à l'étranger. Mais, disait-il juste après, cela ne signifie pas que nous emploierons la force, en ajoutant derrière qu'il réclame la démilitarisation de l'Ukraine et la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, autant d'exigences qu'il sait inacceptable pour Kiev. Vladimir Poutine, qui a également reparlé de la nécessité de protéger les populations civiles sur place, employant à nouveau le mot de génocide en cours, selon lui, autant d'éléments qui pourront éventuellement servir à justifier une intervention militaire.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, sur place dans le Donbass, le territoire des séparatistes russes depuis 2014 occupe un tiers des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lugansk. Sauf qu'hier, Vladimir Poutine a dit reconnaître l'indépendance de l'ensemble des deux régions, soit largement au-delà de la ligne de front actuelle. Séparatistes d'un côté, armée ukrainienne de l'autre. Ça fait 8 ans que ça dure sur cette ligne. Reportage signé Thibault Lefebvre et Jérémy Tuiles dans le village de Mayorsk, à 800 mètres de l'actuelle ligne de partage.
La nuit dernière a été aussi violente que les 6 précédentes.
On a entendu les obus siffler, 8 sont tombés ici, des explosions lourdes, c'était juste là.
Des dégâts qui s'ajoutent aux destructions régulières, nombreuses, que Victor et les 200 habitants de Mayorsk subissent depuis 8 ans.
Un obus de 122 mm est tombé dans mon jardin et a endommagé un mur de ma maison. Je m'en fiche de qui prend le pouvoir, le plus important, c'est la fin de la guerre.
Victor est russe, sa femme ukrainienne, ils ont des amis et des cousins des deux côtés de la ligne de front.
Je n'arrive pas à les joindre. Nous ne fonctionnons pas avec le même opérateur de téléphonie mobile.
Alors que ce soit Moscou, Donetsk ou Kiev qui administre le village, peu importe, Victor veut rester dans sa ferme chauffée au charbon et continuer à cultiver son potager.
À l'époque de l'Union soviétique, on m'a traité de voleur. Je ne veux pas revivre ça. Et tous ceux qui ont migré vers l'ouest de l'Ukraine sont revenus, parce que là-bas, les gens de notre région sont aussi considérés comme des voleurs.
Depuis le début de la guerre en 2014, Mayorsk a perdu la moitié de ses habitants. Près d'1 million d'Ukrainiens sont aujourd'hui déplacés. Ils seraient 3 fois plus, selon le Conseil norvégien des réfugiés, en cas d'aggravation de la crise.
Thibault Lefebvre et Jérémy Tuiles dans le Donbass pour France Inter. Alors depuis hier, les sanctions tombent contre la Russie. Après l'Europe, Joe Biden a dégainé les siennes. Dans la soirée, il va notamment s'attaquer aux finances de l'État russe, empêcher Moscou de négocier sa dette sur les marchés financiers occidentaux, ce qui pourrait peser sur la valeur du rouble et faire grimper les prix des produits importés en Russie, au grand dam des entreprises françaises qui font du business entre les deux pays. Kathleen Comte.
Guillaume Dubuis vit à Moscou depuis plus de 30 ans. Il a fondé l'entreprise Duelest qui importe du parfum depuis la France jusqu'en Russie. Avec la crise, il ne cache pas son inquiétude.
Avec l'effondrement du rouble, on a un risque de change qui est important. Le rouble a déjà un petit peu dégringolé, donc on est proche des 90 roubles pour 1 euro, qui est déjà un seuil très très élevé.
Autre problème, celui du transport. L'entreprise achète environ 1 million d'euros de marchandises par an. La Russie est son marché principal. Problème, les marchandises sont actuellement bloquées à la frontière biélorusse.
On a plusieurs camions sur la route là, et on nous annonce des hausses de 30% sur le transport, et puis des contrôles de marchandises, déchargements, contrôles, vérifications.
Un retard de livraison qui a des conséquences pour l'entrepreneur français. Il est en train de passer à côté du 8 mars, journée internationale des femmes, une date importante en Russie.
Pour nous, il y a 2 pics dans l'année, c'est le 8 mars et la fin de l'année. On risque de rater le pic de la saison qui commence maintenant et qui va jusqu'au 8 mars. Donc on est très attentif par rapport aux sanctions qui vont être prises. On est inquiet parce que ça change beaucoup de paramètres et donc ça nécessite de s'adapter.
La société de Guillaume Dubuis accompagne également des entrepreneurs français qui souhaitent s'installer en Russie. Des entrepreneurs travailleurs qui risquent d'être moins attirés par le pays dans ce contexte.
Ouais, la France qui est le premier employeur et le deuxième investisseur étranger en Russie. Là-bas aussi, les questions de combattants russes, ceux de la milice Wagner, accusés d'avoir massacré des dizaines de civils en Centrafrique au mois de janvier. Paris et Washington l'ont dénoncé hier devant l'ONU, pendant que la Centrafrique ouvrait une enquête sur 4 militaires de l'armée française, 4 membres de la Légion étrangère arrêtés et accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président centrafricain.
France Inter, il est 8h10. À Paris, c'est un procès fleuve, Florence, dont le verdict s'éloigne chaque semaine.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, encore une fois retardé pour cause de Covid. 2 accusés malades. C'est le 4e report d'audience pour les mêmes raisons, Charlotte Pirret.
4 semaines de retard dû au Covid et un verdict désormais envisagé pour le 24 juin. Pour les parties civiles, ce 4e report de l'audience devient difficile à vivre.
Bah là, on en a marre, en fait. Bon, on se dit, mais est-ce qu'on va passer l'été là-dedans?
David Fritz-Guppinger est survivant du Bataclan.
Alors moi, ma vie, c'est pas le procès des attentats du 13 novembre. Donc, on a besoin de passer à autre chose. Vis-à-vis des attentats, c'est encore un autre sujet, mais vraiment vis-à-vis du procès, ce moment de justice-là. D'accord, c'est hyper intéressant ce qui s'y passe, mais on a vraiment besoin de tourner cette page.
Et pour les professionnels, le procès tourne au casse-tête d'organisation. Le président qui achève à peine sa dernière version du planning soupire, il faut repartir à zéro, avec des audiences qui se tiendront aussi les lundis désormais, ce qui complique la vie des avocats cette fois. Maître Margot Durand-Pointclou, qui défend Oussama Krayem à ce procès, ne cache pas un certain pessimisme.
Il y a encore plusieurs accusés qui n'ont pas eu le Covid, et je pense que ce sont les transports collectifs au sein de l'administration pénitentiaire qui favorise les contaminations en cascade, puisque maintenant on en est là. Donc nous espérons évidemment que c'est le dernier report, d'autant plus sur un procès qui est déjà un procès fleuve. C'était déjà une difficulté pour tout le monde de rester concentré dans un marathon pareil pendant 9 mois. Ça rajoute à la difficulté initiale.
Rendez-vous est désormais pris pour mardi prochain, mais le président rappelle, sous réserve, que les accusés positifs soient en état de comparaître.
Charlotte Pirret, condamnée pour avoir tabassé une femme transgenre en fin de semaine dernière dans le centre-ville de Nîmes. 4 hommes hier ont pris des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Et puis lui avait pris les clients et les employés d'un Apple Store d'Amsterdam en otage pendant plusieurs heures hier soir. L'homme armé a fini par être arrêté par la police et tout s'est bien terminé, mais on ne sait rien de ses motivations. Question maintenant, c'est quoi du sel bio? On parle de sel bio quand il est produit dans des marais salants avec des méthodes naturelles comme à Guérande ou Noirmoutier. Et si on s'intéresse au sel ce matin, c'est que la Commission européenne veut élargir le label bio à tous les autres sels, quelle que soit la méthode d'extraction du bio à la mine. Les professionnels s'en inquiètent, comme plusieurs députés. Une proposition de résolution sera discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les élus, Marion Ferrer, dénoncent une aberration.
Ce nouveau règlement mettrait sur le même plan le sel récolté à la main et celui issu des mines, des forages, des méthodes très polluantes, selon Frédéric Tufnel, député MoDem de Charente-Maritime.
Ce qu'on appelle le sel de mine, le sel GEM, c'est le sel qu'on récupère grâce à des forages dans l'écorce terrestre. On injecte énormément de quantités d'eau sous pression. L'autre sel, c'est le sel de mer, qui est lessivé, qui est blanchi et souvent sur lequel on rajoute des oligo-éléments.
Derrière ce projet se cachent des pays industriels sans façade maritime comme la Pologne. Leur sel est destiné à la saumure, aux boîtes de conserve. Il permet aussi de dégivrer nos routes en hiver. On est bien loin de la fleur de sel qui agrémente nos plats. Pour Christophe Anaem, présidente de l'Association française des producteurs de sel marin, le label bio n'aurait plus de sens.
C'est pas être contre une production ou une autre, c'est juste de dire le label bio doit vouloir dire quelque chose, et aussi pour les consommateurs. Et on ne peut pas introduire dans ce label des procédés ou des productions qui utilisent des produits chimiques, qui dénaturent le produit et qui ne respectent pas la ressource.
Impossible aussi pour les 600 petits producteurs français de rivaliser en termes de prix. 800 emplois seraient alors en danger et un savoir-faire vieux de plusieurs centaines d'années.
Marion Ferrer, c'est pas gagné pour Lille en Ligue des Champions, défaite 2-0 hier face au tenant du titre Chelsea en match aller des 8e de finale. À présent, voici l'événement cinéma de cette semaine, le retour du commissaire le plus célèbre du polar français, incarné par le plus célèbre des comédiens français, Gérard Depardieu, et le commissaire Maigret de Patrice Lecomte, toujours avec son chapeau mais sans sa pipe, car son médecin lui a conseillé d'arrêter de fumer. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Le film est inspiré du roman Maigret et la jeune morte de Georges Simenon, évidemment paru en 54, déjà adapté pour la télévision. Cette fois, c'est donc du cinéma. Et vous nous dites, Corinne, que c'est très réussi.
Si vous aimez Georges Simenon et les polars, ancienne, vous allez être séduit. D'un côté, Patrice Lecomte, qui a parfaitement saisi l'ADN du personnage, sa dimension humaniste. Et de l'autre, Gérard Depardieu pour l'incarnation, pour l'allure. Un Maigret quasiment crépusculaire, très convaincant, très intime, dans ce film d'atmosphère, à l'ambiance mélancolique, aux couleurs froides, qui prend des libertés avec l'intrigue, mais reste fidèle à l'esprit du roman, autour d'une jeune femme retrouvée poignardée.
Maigret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Alors Corinne, quand on pense au commissaire Maigret, on pense Bruno Kremer, Jean Gabin, Michel Simon, Jean Richard. Qui n'a pas incarné le commissaire Maigret et pourquoi cet engouement pour ce personnage?
Une recette simple et efficace, des enquêtes courtes, bien écrites, 75 romans, 28 nouvelles et un personnage qui n'en finit pas d'inspirer les réalisateurs. Adapté depuis 100 ans quasiment au cinéma, à la télévision, en France, en Grande-Bretagne, au Canada, au Japon, l'engouement est intact. Et tous les mois, ce sont de nouveaux contrats qui sont soumis à l'appréciation du gardien du temple, John Simenon, en charge de la gestion du patrimoine littéraire de son père.
Je suis très heureux de voir que ces demandes continuent, probablement 3-4 par mois. Alors elles n'aboutissent pas toutes, hein, mais ça montre justement que non seulement Maigret est d'une certaine façon intemporel, mais aussi universel. C'est un homme tout à fait ordinaire. Et même s'il a une capacité d'empathie hors du commun, il reste quelqu'un qui, pour nous lecteurs, est tout à fait abordable, un homme qu'on pourrait rencontrer dans la rue avec qui on aimerait passer du temps au café par exemple ou à discuter sur un banc.
La sortie de ce nouveau Maigret est aussi l'occasion de se replonger dans l'œuvre originale, tout Maigret en 10 tomes réédités récemment dans la collection Omnibus.
Voilà, Simenon, père et fils, l'entreprise a encore de beaux jours devant elle et on s'en réjouit, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, c'est le retour des grisailles matinales.
Et oui Nicolas, à cause des conditions anticycloniques, les brumes et les nuages bas sont assez nombreux de la Bretagne au Pays de la Loire, au centre-Val de Loire, à l'Île-de-France et des Hauts-de-France au Grand Est, sans oublier les bandes brouillard formées le long de la Garonne. On retrouve les résidus aussi de la perturbation d'hier avec un ciel bien chargé de la Vendée au nord de la Gironde, au Massif central, au Jura, avec même quelques flocons sur le relief. En revanche, c'est ciel bleu et soleil des Pyrénées, aux Alpes, à la Méditerranée, jusqu'à la Corse. Retour aussi des petites gelées matinales, moins 1 à Sisteron ou Beauvais, seulement 0 à Chartres, un petit degré à Charleville-Mézières comme à Lille. Il fait 3 à Calvi, 5 à Quimper, 6 à Paris et à Brive.
Et retour de belles éclaircies cet après-midi.
Et oui, avec la hausse du champ de pression, eh bien le soleil va percer à travers les nuages sur la moitié nord, malgré l'installation d'un voile nuageux au fil des heures par l'ouest, annonciateur d'une perturbation pour demain, donnant déjà quelques gouttes en fin de journée sur le Finistère et la Vendée. Au sud de la Loire, vous passerez un après-midi ensoleillé au ressenti printanier. Alors au plus bas, il fera 10 à Fécamp et à Langres, 11 à Lille, vous aurez 12 à Paris et à Vannes, 13 à Strasbourg, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Lyon comme à Toulouse, 17 à Bastia, 19 à Marseille, et on attend comme hier jusqu'à 20 entre Perpignan et Montpellier.
Marie-Pierre Planchon, merci et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h18.